Le débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute du débat sur RFI. Une réunion se tient en ce moment à Genève pour évaluer les conséquences de l'e-commerce, le commerce en ligne pour les pays en développement. Ce commerce en ligne qui connaît un essor fulgurant. Il représentait par exemple 8 milliards d'euros en Afrique il y a 4 ans. Il pourrait atteindre les 50 milliards l'année prochaine. Alors comment expliquer cet engouement et est-ce qu'il marque un tournant révolutionnaire dans les modes de consommation? L'e-commerce est-il l'avenir dans les pays émergents? On va en parler avec nos deux invités ce soir. Je vous les présente tout de suite. Je commence avec vous, Estelle Gillot-Vallée. Vous êtes responsable du développement international des entreprises en Afrique et au Proche-Orient. Vous travaillez pour la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Île-de-France. Bonsoir à vous, Estelle Gillot-Vallée.
Bonsoir.
Et puis Jérémy Douté, lui, le directeur général de la branche e-commerce chez Jumia. C'est un site de commerce électronique qui se promeut, dit-on, comme un centre commercial en ligne présent donc dans une vingtaine de pays africains. Bonsoir Jérémy Douté.
Bonsoir.
Alors, comment expliquer d'abord à nos auditeurs la croissance très forte du commerce en ligne en Afrique? Je commence avec vous Jérémy Douté, puisque vous dirigez ce site Jumia qui concerne une grande partie des pays africains.
Nous, on s'est lancé à peu près il y a 5 ans, et à l'époque, on partait simplement du constat que ce service existe partout dans le monde et pas en Afrique, donc on s'est dit pourquoi pas nous. Et au fil du temps, effectivement, on a connu une croissance très très forte, et nous sommes hyper heureux de cette croissance-là. Et au final, avec 5 ans d'expérience, je pense que les facteurs explicatifs de cette croissance forte résident dans la proposition de valeur même du e-commerce. C'est-à-dire que le e-commerce, pour moi, c'est grosso modo offrir plus de choix, souvent à des prix plus avantageux avec le service. Et on trouve dans ces propositions de valeur-là la solution à beaucoup de problèmes inhérents dans la distribution et dans le retail en Afrique.
Mais quels sont les éléments qui ont contribué à cette expansion? Les éléments physiques, je dirais. On parle par exemple du téléphone portable qui a été un révélateur de ce commerce en ligne.
Alors effectivement, nous déjà quand on est arrivé par exemple au Nigeria, qui est aujourd'hui notre plus gros marché, il n'y avait seulement que 25 millions d'internautes. Aujourd'hui, cette année, en 2017, on pense qu'il y en a à peu près 100 millions. Et tout ce mouvement vers l'Internet, en fait, s'est fait par l'acquisition des téléphones mobiles. Et en Afrique, aujourd'hui, on a à peu près 80% de notre trafic qui vient, en fait, des téléphones mobiles, directement. D'ailleurs, cette semaine, on avait une opération commerciale en Afrique, on vendait des téléphones. Et je pense on a vendu à peu près 120 000 ou 130 000 téléphones sur la semaine. Donc, c'est pour vous dire le besoin d'équipement et la vitesse d'adoption.
D'accord. Estelle Gillot-Vallée, vous êtes d'accord avec ce diagnostic sur la croissance très forte de l'e-commerce?
Oui, oui, je crois que c'est un point important qui a été souligné. Il y a d'autres facteurs qui, à mon avis, favorisent aujourd'hui la croissance du e-commerce. C'est l'émergence d'une classe moyenne à travers tout le continent, alors de façon inégale d'un pays à un autre. Mais c'est quand même un constat qui est évident. On évalue à peu près aujourd'hui à 200 millions d'adultes la classe moyenne en Afrique. Alors la classe moyenne, c'est gagner entre 2 et 20 dollars par jour et par personne. C'est 20% à peu près de la population en 2010. On estime à 26% ce nombre de ce taux de classe moyenne en 2040. Et d'acheteurs potentiels. Donc il y a une croissance, elle n'est pas exponentielle non plus, hein, je crois qu'il faut l'avoir en tête, mais elle est réelle et elle suscite évidemment des nouveaux besoins et des nouveaux modes de consommation. C'est aussi le phénomène de la jeunesse, je crois que c'est une population qui est jeune et qui du coup a grandi et grandit avec les outils connectés comme en Europe, comme partout dans le monde.
C'est un début de définition du profil type de consommateur qui achète aujourd'hui en ligne en Afrique, Jérémy Douté?
Ah oui, notre base de clients, elle est très masculine, très jeune, donc très connectée, très avide de nouvelles technologies. Je rencontrais récemment le directeur général d'une grande marque de beauté en Europe, qui est aussi responsable pour l'Afrique, et je pense qu'il m'a donné une définition qui était très bonne. Il me disait, aujourd'hui, notre population africaine et subsaharienne, c'est des habitants du tiers-monde, qui savent qu'ils sont du tiers-monde, mais qui ont des aspirations du monde occidental. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ils sont nourris de culture occidentale par le biais du développement d'Internet, les séries, la télévision, le cinéma. Et ils voient ce mode de consommation, ils en ont envie. Ils aspirent à cette profusion de produits, cette qualité de produits et la qualité de service.
Progression fulgurante, manifestement. C'est dans l'air du temps, mais est-ce qu'elle a ses limites, cette progression-là, d'après vous?
Les limites, résident dans les difficultés opérationnelles, la difficulté pour nous à exécuter. Les limites sont nombreuses. Premièrement, la faible bancarisation des populations qui nous oblige à développer des solutions innovantes, telles que ce qu'on appelle le cash on delivery, donc le paiement à la livraison. Par ailleurs, le manque de talent. Nous rendons compte que les jeunes Africains sont extrêmement entrepreneurs et volontaires, mais par contre les systèmes d'éducation est de manière générale relativement défaillant. Donc on a du mal à trouver suffisamment de talent en fait pour nourrir la croissance de notre entreprise et pour finir l'infrastructure. Livrer en Afrique coûte en fait très très cher. Selon nos estimations, 2 à 4 fois plus cher qu'en France par exemple. Et donc les coûts logistiques sont un frein à notre développement.
Vous voulez dire que la commande est simple finalement, mais que l'acheminement pose des problèmes complexes. Exactement. Dans les pays où les infrastructures sont peu développées. Vous êtes d'accord, Estelle Gillot-Vallée?
Oui, complètement. Je pense que c'est parmi les freins, c'est celui de l'infrastructure, de la logistique, de la gestion aussi, de la sécurisation des paiements aussi. Ça, c'est aussi un frein. Le rapport à Internet et la relation de confiance qu'il peut y avoir aussi vis-à-vis de quelque chose de dématérialisé par rapport à une transaction qui se fait en face à face peut être aussi un frein. Il y a un côté un peu déshumanisé à Internet qui peut aujourd'hui paraître comme une limite au développement, mais elle est, je pense, conjoncturelle. Les habitudes changent très vite.
Ça ne peut pas handicaper, vous voulez dire, à terme, la progression du phénomène du e-commerce?
Handicaper, je ne pense pas. Ça ne relève pas du handicap, parce que je pense qu'au contraire, là où il y a des freins, c'est aussi une opportunité énorme pour les pays africains. Ils font des sauts technologiques. Il passe d'un certain environnement, d'un certain mode de fonctionnement. Tout ce qui est lié au retail en Afrique est assez informel, c'est peu structuré. Ils ne vont pas passer probablement par ces étapes de construction de magasins, de gestion logistique lourde, mais directement à des magasins en ligne. Et qui, au final, vont peut-être permettre à beaucoup plus de populations, beaucoup plus vite, d'accéder à tout un tas de biens de consommation qu'ils n'imaginaient pas pouvoir un jour avoir. Donc, non, je pense que ça modifie aussi les habitudes de consommation et les sociétés.
Est-ce que... On parlait du mode de paiement tout à l'heure dans des pays où les cartes bancaires ne sont pas forcément très, très répandues, où le paiement en espèces est la règle. Comment vous faites précisément? Comment vous parliez d'un vous amenez les produits et ils vous sont payés au moment où ils sont livrés d'une certaine manière. C'est comme ça que ça se passe?
Alors c'est exactement comme ça qu'on a initié l'entreprise, qu'on a initié les flux, parce qu'aujourd'hui, au début, quand vous lancez une entreprise, surtout en Afrique, sur le e-commerce, nous n'avions pas de marque, pas de reconnaissance, et donc pas de confiance. Et donc ce qu'on a fait au début, c'est qu'on amenait simplement les produits au niveau du client. Le client regardait le produit, si c'était conforme à ses attentes, il nous payait en cash à la livraison.
Et si ça l'était pas?
Et si ça l'était pas, on prenait le produit et on le ramenait chez nous. Le problème de cela, c'est qu'en fait, le taux d'acceptation des produits au moment de la livraison était d'environ 50 à 60%. Vous imaginez bien que, en fait, quand les gens placent l'achat en ligne et qu'ils n'ont pas payé, ils ont dans leur tête une option d'achat, mais pas un achat. Alors que le taux de livraison de nos produits, quand ils sont prépayés, comme en France, avec une carte, est aux alentours de 98-99%. Donc nous, on fait tout ce qu'on peut aujourd'hui pour en fait pousser vers ce paiement en ligne, parce que c'est extrêmement coûteux pour nous de devoir amener un produit en Afrique à quelqu'un et de devoir repartir avec le frigo dans notre warehouse. Donc on a fait deux choses. Premièrement, on travaille avec les gouvernements. Par exemple, au Nigeria, le gouvernement a mis en place un système très innovant avec Mastercard, en donnant une carte à 150 millions d'habitants, qui fait à la fois carte bancaire et carte d'identité. Donc, la majorité de la population sera bientôt équipée d'une carte bancaire, ce qui va nous permettre d'accélérer la bancarisation. De notre côté, nous, on travaille aussi avec Mastercard à développer nos propres moyens de paiement, essentiellement par le mobile, sans carte. En fait, les gens enregistrent directement leur compte bancaire sur leur téléphone et peuvent payer directement du téléphone. Donc, on essaie de trouver des moyens pour maintenant aller au-delà du paiement à la livraison, d'accord, qui est très coûteux pour nous.
Et manifestement, vous les trouvez, ces moyens-là.
On y arrive, progressivement.
Grâce à la collaboration avec les gouvernements locaux.
Les gouvernements et les entreprises. C'est d'accord. Il y a des partenariats gouvernement-entreprise.
Ok. Estelle Gillot, allez, je me posais la question de savoir s'il y avait un intérêt fort pour les entrepreneurs français pour développer en Afrique, par exemple, ou au Moyen-Orient, puisque c'est une de vos zones d'activité, leur activité commerciale en ligne. Il y a un intérêt ?
Alors, il y a un intérêt, je dirais, qui émerge également. Ce n'est pas aujourd'hui la priorité, et je pense que c'est dommage, des entreprises françaises que nous accompagnons. Elles sont, mais il faut souligner que ce sont des PME pour la grande majorité, donc elles n'ont pas non plus les moyens de grandes sociétés pour structurer. Mais c'est une chance en même temps.
Il y a des cas, vous pouvez citer des exemples d'entreprises.
Citer des exemples d'entreprises qui travaillent en ligne. Dans le domaine, alors en fait on en a accompagné notamment une qui elle a développé des solutions de paiement sur mobile et dont le premier marché de croissance a été l'Afrique. Dans le domaine du e-commerce précisément, dans les produits, les accessoires de maison, ça on a eu. Et puis également dans les biens d'équipement, petits matériels, pièces de rechange, qui étaient qui sont des pièces standards et qui peuvent commander en ligne.
Si je peux me permettre, je pense que pour moi c'est la définition même en fait de l'entrepreneuriat. Pour moi, les opportunités, elles existent dans l'espace entre la perception et la réalité. Je pense que la perception est très très loin en fait de la réalité, et pour moi c'est la nouvelle frontière. Et je pense que les opportunités, elles vont être capturées par les gens qui se décident à y aller en premier. Moi, je dirais que, par ailleurs, on trouve que dans notre pays, il y a en fait pas mal de jeunes qui veulent aller en Afrique et entreprendre, dont les gens qui rejoignent notre entreprise. Moi, j'ai en fait très peur, parce que ce que je vois aujourd'hui en Afrique, c'est une agressivité incroyable de la part des Chinois. Les entreprises chinoises et les entrepreneurs chinois sont d'une agressivité incroyable, et on les voit parce que nous, on commence à être en concurrence face à ces entrepreneurs qui sont par ailleurs hyper compétents et très travailleurs. Donc moi, je crois qu'il y a une opportunité.
Et dans quel domaine, alors, les opportunités sont-elles les plus évidentes? Dans quel secteur ce commerce en ligne va-t-il devenir dominant?
Alors, moi, je pense qu'en Afrique, il y a aujourd'hui un problème majeur dans nos pays, c'est la présence de produits de qualité ou de qualité ou de produits de marque. Parce qu'en réalité, il suffit d'aller à Charles de Gaulle ou à Londres et prendre l'avion pour voir qu'à chaque fois que vous êtes sur un vol pour l'Afrique, les gens sont là avec des valises pleines et rentrent avec les biens à la maison. Donc c'est ce problème-là, nous, qu'on veut résoudre en fait aujourd'hui. Donc les produits de marque et les produits de qualité. Donc par exemple, nous aujourd'hui, on a ouvert une solution qui s'appelle le cross-border commerce. Donc en fait, on permet aux PME françaises ou aux entreprises françaises d'expédier leurs produits en Afrique par Jumia avec une formule de prépaiement. C'est-à-dire que les gens payent avant que le produit soit expédié. Et par exemple, on travaille notamment avec un exemple parfait, c'est avec des entreprises de pièces détachées automobiles, parce que le marché de l'occasion en Afrique est énorme sur l'automobile. Les gens n'ont pas confiance dans les pièces détachées parce que souvent c'est des pièces de contrefaçon. Les clients veulent acheter des produits authentiques de France ou d'Allemagne, et donc on est en train de lancer cela sur l'Afrique. Et donc on est en train d'ouvrir tous ces verticaux,
d'accord,
pour permettre aux entreprises françaises d'exporter à l'Afrique.
À qui profite l'essor du commerce en ligne, selon vous, Estelle Gillot-Vallée? Qui sont les grands gagnants de cette mutation?
Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont gagnants. Il y a d'abord, à mon avis, les populations africaines elles-mêmes, parce que elles peuvent avoir accès de façon, je dirais, simple à un choix énorme, ce qui était mentionné tout à l'heure, un choix énorme de produits qui ne se trouvent pas sur le continent.
Les consommateurs, donc.
Donc, en premier lieu, je pense les consommateurs. Ensuite, c'est un plus pour les États eux-mêmes, parce que ça les oblige, du fait qu'il y a cette pression de la population, ça les oblige aussi à faire des réformes, à à faire évoluer aussi leur modèle. Dans les freins, il y a notamment l'accès à la data. Bon, il faut une intervention, une impulsion des États pour faciliter et augmenter l'accès à la data des internautes, des consommateurs africains. Et ça profite évidemment aux entreprises africaines elles-mêmes, puisqu'il y a quand même beaucoup sur le territoire africain des exemples d'entreprises de e-commerce qui se développent, notamment au Maroc, mais aussi, sans me tromper trop, vers l'Égypte, le Kenya. Vous avez des exemples donc de plateformes qui permettent à des entreprises africaines de vendre leurs marchandises beaucoup plus facilement parce qu'elles n'ont pas forcément toutes les infrastructures.
Et les entreprises
internationales, bien évidemment.
C'est l'exemple des pièces détachées que donnait tout à l'heure Jérémy Doutet. On est un exemple fort. Est-ce que le commerce électronique peut mettre en péril le commerce traditionnel, qui est une source importante, on le sait, de revenus pour des tas de gens dans les pays émergents? Est-ce qu'il peut assécher l'emploi ou est-ce qu'au contraire, il en crée de nouveaux, Jérémy Doutet?
Alors, moi, je pense que c'est en fait l'inverse. Je pense que c'est une énorme opportunité pour les commerçants et pour les entrepreneurs locaux. Nous, ce qu'on dit chez Jumia, c'est qu'on veut pas être Amazon. On veut être l'entreprise qui permet à chaque Africain de devenir Amazon. Et en fait, on est une plateforme de e-commerce ouverte qui détient pas de produits en propre, mais qui permet à chaque commerçant en Afrique d'ouvrir sa boutique sur Jumia. Aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de milliers de commerçants qui sont en fait actifs sur Jumia, pour la plupart dont le seul métier, dont le seul la seule entreprise est leur shop sur Jumia. Et surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on crée énormément de données pour eux. Par exemple, un des problèmes fondamentaux des entreprises et des petites entreprises, petites et moyennes entreprises en Afrique, est l'accès au financement. Et Jumia étant une entreprise internationale, reconnue, avec des comptes certifiés, les banques aujourd'hui font de plus en plus confiance en fait aux données de Jumia. Et donc aujourd'hui, les banques, par exemple, viennent vers nous pour certifier le bilan d'activité des magasins sur Jumia, qu'on fait bien gracieusement, et en échange de quoi, sur la base de ces informations, donne des prêts beaucoup plus volontairement et beaucoup plus facilement aux entreprises africaines.
Avant le commerce en ligne, les courses se faisaient dans les grandes surfaces, les supermarchés. Il semble que dans les pays émergents, on saute cette étape d'une certaine manière, que l'on passe directement de la petite boutique de quartier à l'achat en ligne. C'est ce qui se passe effectivement?
Donc ça, c'est le phénomène qu'on essaye d'accélérer. C'est une vraie aspiration. Il y a encore pas mal de problèmes qu'il faut qu'on résolve, comme par exemple la rapidité de la livraison. Aujourd'hui, on n'est pas capable de livrer comme Amazon en France dans la même journée. Mais le jour où on réussira à résoudre ça, on verra ce phénomène totalement exploser. On y tend. Il y a déjà des comportements qui commencent à aller dans ce sens-là, mais c'est pas encore la majorité des comportements.
Estelle Gillot-Vallée, c'est une mode passagère, vous pensez, ou c'est une tendance incontournable qui s'installe définitivement dans la vie commerciale mondiale, le commerce en ligne?
Oui, je crois que c'est une tendance de fond qui n'a pas de marche arrière. Moi, je voudrais un peu tempérer le risque que vous aviez soulevé de destruction d'emplois, en mentionnant quand même le fait qu'aujourd'hui, le e-commerce en Afrique, c'est 2% du marché mondial. Donc, on n'en est pas encore là.
Oui, ça progresse très vite.
Ça progresse très vite, mais je pense qu'il faut quand même... les deux peuvent très bien cohabiter. En France, on n'a pas forcément tous les emplois de commerce de proximité qui sont détruits. Il y a une cohabitation qui se fait. Et en Afrique, je pense que le rapport, le lien humain est encore très, très ancré. Et ça ne va pas, en tout cas, sur les 10 ans à venir, détruire des emplois. Mais au contraire, je suis tout à fait d'accord avec ça, ancré.
Restons-en là, c'est une note plutôt positive à cette conversation. On n'en dira pas plus ce soir, c'est la fin de notre émission. Merci à tous les deux, Estelle Gillot-Vallée, responsable du développement international des entreprises en Afrique et au Proche-Orient. Vous travaillez donc pour la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Île-de-France. Et Jérémy Doutet, vous êtes le directeur général de la branche e-commerce chez Jumia. C'est un site de commerce électronique présent dans une vingtaine de pays africains. Merci également à Florence Pons qui a préparé cette émission, à Fabrice Viollet qui la réalise. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous. Dans quelques secondes, restez à l'écoute. Un nouveau journal sur Radio France Internationale.